levée des sanctions, trois tactiques médiatiques de l'Occident. Les médias occidentaux avaient précédemment soulevé la question d'un accord intérimaire qui reflétait la stratégie de l'Occident et des États-Unis dans les pourparlers de Vienne. Les pays occidentaux, qui cherchent toujours un moyen de contourner leurs engagements, ne veulent pas que la question du nucléaire iranien soit radicalement résolue. Le jeu du bon et mauvais policier. Avec l'entrée des négociations dans des étapes techniques complexes et sensibles et les décisions politiques, la Troïka européenne se partage les rôles. Le rôle négatif que le représentant français a joué dans les négociations précédentes est désormais repris par la partie britannique. Le ministre britannique des Affaires étrangères a cyniquement déclaré que le temps pour le rétablissement de l'accord nucléaire avec l'Iran était compté. Changement de composition de l'équipe diplomatique américaine. À la mi-décembre, divers médias faisaient état du possible limogeage de Robert Malley. Connu aujourd'hui comme l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran, il a été impliqué dans les affaires du Moyen-Orient au sein des anciennes administrations de Bill Clinton et de Barack Obama. Robert Malley occupe toujours la présidence de l'International Crisis Group à Washington, mais certains y voient une affaire de division interne au sein de l'équipe américaine qui s'est manifestée peu à peu. Malgré les menaces et les pressions de l'autre partie, depuis le début de la reprise des négociations, Téhéran n'a pas reculé devant ses revendications légitimes, les garanties et la vérification de la levée des sanctions américaines. Les pourparlers de Vienne seront suspendus pendant une semaine tandis que toutes les parties reconnaissent que le dernier cycle a été constructif. L'entretien téléphonique Raisi-Macron. Les stratégies visant à renforcer les relations bilatérales, les questions régionales et le dernier état des pourparlers à Vienne pour la levée des sanctions ont été au centre de cette conversation téléphonique. Les États-Unis ont reconnu l'échec de la politique de pression maximale. À ce propos, l'ayatollah Raisi a souligné que la République islamique d'Iran a montré sa volonté et son sérieux pour parvenir à un accord et pour ce faire, elle veut les garanties et la vérification de la levée des sanctions américaines. Il a par ailleurs appelé la communauté internationale à prêter attention à la crise humanitaire au Yémen et à y lever le siège. Pour sa part, le président français a souligné que la République islamique d'Iran a le droit de se méfier des États-Unis, car ce sont eux qui ont provoqué la crise. Les deux hommes ont également abordé les développements de la région, y compris la situation au Liban. Avoir gelé de l'Iran en Corée du Sud. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant une source informée, a déclaré que Séoul et Téhéran prévoyaient de tenir des consultations dans la capitale sud-coréenne le mois prochain au sujet des moyens de libérer les fonds iraniens gelés dans les banques de la Corée du Sud. Les fonds iraniens gelés dans deux banques sud-coréennes en raison des sanctions extraterritoriales imposées par les États-Unis est un point d'achoppement majeur dans les relations bilatérales. L'Iran dispose de plus de 7 milliards de dollars de fonds dans deux banques sud-coréennes qui servaient aux expéditions de pétrole à la Banque industrielle de Corée, IBK et Woori Bank. Alors que les négociations pour relancer l'accord nucléaire de 2015 à Vienne entrent dans une phase importante et que les responsables iraniens appellent à la levée des sanctions pour parvenir à un accord visant à sauver le plan global d'action conjoint sur le nucléaire, l'affaire des avoirs iraniens dans les banques coréennes revient sur la table. La Corée du Sud a utilisé 18 millions de dollars, un peu moins de 16 millions d'euros, de fonds iraniens gelés pour régler les impayés, toujours à cause des sanctions américaines, de Téhéran au budget de l'Organisation des Nations Unies, a annoncé dimanche 23 janvier Séoul, ce qui a permis à l'Iran de récupérer rapidement son droit de vote à l'ONU. L'Iran, qui possède les quatrièmes plus grandes réserves de pétrole au monde, a été l'un des principaux fournisseurs de pétrole à la Corée du Sud. En retour, il importait des équipements industriels, des appareils électroménagers et des pièces automobiles. En 2017, la Corée du Sud a importé 7,8 milliards de dollars de pétrole iranien qui reste toujours impayé. Depuis 2019, sous prétexte de sanctions américaines, Séoul a cessé ses importations d'Iran. Production d'automobiles, une croissance de 4,1% en Iran entre mars 2021 et janvier 2022. Une étude sur les chiffres publiés par le système d'information Codal indique la production en Iran de 760 527 véhicules par les trois plus grands constructeurs automobiles Iran Rodro, Saipa et Porsche Rodro depuis le 21 mars 2021 jusqu'à janvier 2022. Selon l'IRNA, ce niveau de production montre une croissance de 4,1% par rapport à la même période l'an dernier. Trois églises iraniennes inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les plus de 400 églises répertoriées en Iran, trois églises, Saint-Adé et Sainte-Mère de Dieu de Desorzor et Saint-Stépanos, ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale de Vank à Isparan, l'église Cantor de Qazvin, l'église Sohrabad à Mazandaran, la grande cathédrale Saint-Sarkis à Téhéran, l'église Saint-Garapé à Abadan, l'église Sainte-Marie à Tabriz sont quelques-unes des églises les plus célèbres en Iran. L'église Saint-Adé ou église de Qara. Saint-Adé est un monastère arménien situé dans la province de l'Azerbaïdjan de l'Ouest, à côté de Chaldoran, à une vingtaine de kilomètres de Makou. Le complexe monastique figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 6 juillet 2008, aux côtés du monastère Saint-Stépanos et Sainte-Mère de Dieu de Dzordzor. Selon la tradition, le monastère remontait à 66 après Jésus-Christ et aurait été érigé par Thaddée, autrement connu comme l'apôtre Jude en personne. Attesté à partir du XIIe siècle, le monastère de Saint-Adé a été détruit en 1319 par un tremblement de terre. L'état actuel des monuments résulte de deux campagnes de restauration et de construction au XVIIe et au XIXe siècle. L'église Sainte-Mère de Dieu de Dzordzor. Dzordzor est un autre monastère arménien de l'Azerbaïdjan de l'Ouest. Il a connu son apogée au XIVe siècle avant d'être détruit au début du XVIIe siècle. La chapelle Sainte-Mère de Dieu est l'unique vestige du monastère. La construction de cette chapelle cruciforme, surmontée en son centre d'une coupole à tambour, remonterait au 9e et 10e siècle ou au 14e siècle. La chapelle figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 6 juillet 2008. L'église Saint-Stépanos ou Saint-Étienne. Saint-Étienne est un monastère arménien situé à proximité de la ville iranienne de Djolfa dans la province de l'Azerbaïdjan de l'Est. Le monastère est attesté à partir du Xe siècle, mais les constructions actuelles datent des XVIIe et XIXe siècles. L'église principale a été construite entre 1643 et 1655 sur commande de l'évêque Jacob de Djolfa, futur patriarche. C'est l'une des plus éloquentes illustrations de la renaissance de l'architecture arménienne du XVIIe siècle, époque de sa reconstruction. Visite d'Esmaïl Grani à Erbil. Le général de brigade Esmaïl Grani, commandant en chef de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, est arrivé à Erbil en Irak. Il s'est rendu à Samara et avait visité le sanctuaire de l'imam Askel. Le commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique a également rencontré les forces des Hashd al-Shaabi, avec qui il s'est entretenu des problèmes de sécurité dans la région.